Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Tous contre Le Pen, c'est l'un des enseignements tirés du débat entre les têtes d'affiche de l'élection présidentielle hier sur TF1. Les quatre adversaires de la patronne du FN ont voulu apparemment montrer qu'ils faisaient le poids face à la favorite des sondages.
Marine Le Pen, qui a imposé ses thèmes de prédilection dans le débat, laïcité, sécurité, immigration... Tous ces thèmes ont échauffé les esprits.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, lui aussi a embauché ses filles comme attachées parlementaires alors qu'elles étaient encore mineures. Et il assume.
À l'étranger, l'audition du directeur du FBI contredit à deux reprises le président Donald Trump. Riposte délicate pour le président américain.
Et l'Église implore pour la première fois le pardon de Dieu pour le rôle qu'elle a joué dans le génocide au Rwanda en 94 et le massacre des centaines de milliers de Tutsis. On a d'abord eu un tour de chauffe où chacun a posé doctement les grandes lignes de son programme. Et au bout d'une heure, les candidats ont commencé à montrer davantage de pugnacité. Enfin le débat promis, enfin la campagne lancée, en tout cas entre les cinq têtes d'affiche, Fillon, Hamon, Le Pen, Macron et Mélenchon, par ordre alphabétique, les cinq invités hier soir sur le plateau de TF1. Bonjour Christine Monclar.
Bonjour Amélie.
Vous avez suivi ce rendez-vous inédit sous la 5e République pour France Culture. Alors pas sûr qu'il y ait un gagnant ce matin à l'issue du débat, mais l'on y voit plus clair dans les rapports de force, avec souvent un 4 contre 1, 4 contre Marine Le Pen, comme si les outsiders voulaient montrer qu'ils tenaient la route dans un duel au second tour face à la patronne du FN, comme si Marine Le Pen était d'ores et déjà qualifiée pour ce second tour, Christine.
Alors Marine Le Pen, il faut le rappeler, seule femme sur le plateau, ne peut que se faire remarquer, même dans une ronde. Mais en effet, ses quatre concurrents avaient décidé de la provoquer en duel tour à tour. Son vieil adversaire Jean-Luc Mélenchon, de retour sur scène hier soir, fut celui qui ferrailla le plus, tout en partageant certaines thèses sur l'Europe ou la Russie. Benoît Hamon la juge droguée aux faits divers et François Fillon l'accuse de vouloir ruiner la France.
Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Madame Le Pen avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc.
Voilà, c'était court mais clair. Quant à Emmanuel Macron, porté tout autant qu'embarrassé par sa popularité, le novice en politique avait peut-être la pression la plus grande hier soir. Marine Le Pen l'avait visiblement désigné comme cible numéro un de ses attaques en vertu des sondages. Le candidat d'En Marche a mis une bonne heure à émerger du débat, mais ce fut par une sortie plutôt enlevée contre Marine Le Pen, justement sur sa conception de la laïcité. Laïcité qu'elle veut sanctuariser ainsi dans la Constitution. Écoutez-la.
Il faut lutter contre le communautarisme. Et moi, je veux inscrire dans la Constitution « La République ne reconnaît aucune communauté ». Je veux établir la laïcité partout, et notamment dans l'espace public. Et je veux que les règles qui s'appliquent à l'école depuis 2004 s'appliquent à l'ensemble
donc
de l'espace public.
Donc,
je veux même l'inscrire à la laïcité dans le code.
Suite à quoi, voilà, suite à quoi Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron ont encerclé presque physiquement Marine Le Pen, l'accusant d'être pour une laïcité à géométrie variable, de diviser les Français sur des bases religieuses, de vouloir imposer une police du vêtement. François Fillon, lui, notons-le, est resté silencieux ou presque pendant ces échanges. Ces questions-là, il est vrai, le distinguent moins de Marine Le Pen que les thèmes économiques.
Alors voilà pour les passes d'armes, les démonstrations de force. Pour ce qui est des thèmes justement les plus disputés hier, Christine, ont été les thèmes de prédilection du Front National. Autre preuve donc de l'emprise de Marine Le Pen sur la campagne.
Oui, alors ce sont certes les thèmes du Front National, mais c'était aussi l'enchaînement choisi par TF1 au début du débat. Après l'éducation, on a parlé insécurité, puis immigration, puis laïcité, puis islam. Le terrorisme fut relégué un peu plus loin, mais il s'en est fallu de peu pour que la boucle sémantique frontiste soit bouclée. Autre zone de confort pour Marine Le Pen, la relégation à la toute fin des questions internationales sur lesquelles elle est souvent attaquée. Et puis le passage sous silence ou presque des affaires en cours la concernant, tout comme celle de François Fillon.
Christine Monclar du service politique de France Culture, merci beaucoup. Voilà pour le débat des cinq gros, entre guillemets. Plusieurs ont regretté en propos liminaires l'absence des six autres concurrents qualifiés pour le premier tour et privés d'invitation sur TF1 hier soir. D'ailleurs, l'autre débat organisé par le nouveau média explicite a tourné court. Finalement, seuls deux candidats au micro, Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière et Jacques Cheminade du Parti Solidarité et Progrès. Philippe Poutou a annulé à la dernière minute, retenu par une grève dans son usine Ford en Gironde, a-t-il expliqué sur Twitter. Et Nicolas Dupont-Aignan, lui, a préféré se rendre sur le plateau de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, sur C8. Les grands absents du débat, ce sera le billet politique de Frédéric Saïs à Presse Journal. Alors, si hier les programmes ont repris le dessus sur les affaires très peu évoquées, on l'a entendu avec Christine Moncla, les casseroles ne sont quand même jamais très loin de la politique. Avec un ministre dans le viseur ce matin, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, convoqué dans la journée par le chef du gouvernement, Bernard Cazeneuve, pour s'expliquer sur les CDD accordés à ses filles. Hier, l'émission Quotidien de Yann Barthès a révélé que Bruno Le Roux, alors député de Seine-Saint-Denis, a fait travailler ses deux filles comme assistantes parlementaires. Au début, elles étaient encore mineures. Les précisions d'Anne-Laure Bouzige.
Bien entendu, j'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence. Voilà comment se justifie Bruno Le Roux, qui ajoute que c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, d'essayer de faire découvrir un travail, une bonne école, dit-il lors d'un déplacement à Paris le 14 mars dernier. Une bonne école pour ces deux filles qui ont dès leurs 15 et 16 ans cumulé 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016. 24 CDD en tout pour un montant total de 55 000 euros. Des contrats alors qu'elles étaient en stage ou en cours, par exemple du 10 juin au 9 septembre 2013. L'aînée travaillait pour son père et en même temps était en stage chez Yves Rocher en Belgique. La plus jeune a elle signé un contrat d'avril à mai 2015 tout en étant scolarisée en classe préparatoire. Mais cela n'empêche pas les filles de Bruno Le Roux de travailler pour leur père, assure le cabinet du ministre, qui ajoute qu'il est possible de faire, je cite, un travail à distance.
Obliger les salariés à parler français pour que leurs entreprises puissent décrocher des marchés publics. On l'appelle la clause Molière et elle oppose aujourd'hui la présidente de la région Île-de-France, la LR Valérie Pécresse et le préfet de la région, saisi par les groupes de gauche. La droite voudrait en effet imposer l'usage du français sur les chantiers. La clause a été adoptée au début du mois en séance plénière. Le préfet met aujourd'hui en garde Valérie Pécresse contre toute clause qui constituerait, je cite, une violation du principe de non-discrimination et serait illégale. La moitié des jeunes sont déjà tombés par hasard sur un film X en surfant sur le net. Le chiffre sort d'un sondage IFOP. On apprend également qu'un tiers des 13-14 ans a déjà vu de la pornographie. Un problème au cœur d'une journée de réflexion lancée par la ministre des Familles et de l'Enfance, Laurence Rossignol. Des juristes, des opérateurs et des fournisseurs d'accès sont conviés. Protéger les plus jeunes de la pornographie, malgré leur présence toujours plus grande sur Internet, c'est tout l'enjeu, Lise Verbeck.
À la sortie du collège Boris Vian dans le nord de Paris, beaucoup reconnaissent être déjà tombés sur des images pornographiques en surfant sur leur téléphone. Mais au micro, ils insistent bien, ça ne les intéresse pas.
Quand je regarde des films en streaming, il y a des filles nues à côté, je comprends pas. Hein.
Moi je regarde pas ça, je regarde pas ça.
Moi, je suis tombée par hasard un jour.
Ouais. Voilà, j'ai vu là, tu as regardé.
Même si des gens l'ont regardé, ils vont pas dire.
Hors micro, certains le concèdent, ils ont déjà regardé un film X. Il suffit d'un clic pour accéder à un site pornographique en mentant sur son âge. La ministre des Familles veut mettre en place un contrôle parental par défaut sur les ordinateurs et les téléphones, ce qui, dans les faits, est difficile à mettre en place et soulève des interrogations pour Valérie Sédaillan, avocate spécialiste en droit de l'informatique et de l'Internet.
On va visiter un certain nombre de sites, alors qui établit les listes, comment on recense les sites à filtrer. Du coup, ça pose des questions de principe parce qu'on va déléguer le contrôle à des sociétés commerciales privées. Il y a les problèmes donc de contrôle sur la manière dont on va exercer le contrôle. Bon, il y a évidemment les arguments classiques avancés par les fournisseurs d'accès ou les fournisseurs téléphoniques comme quoi ça va être très compliqué à mettre en œuvre, ça va pas marcher, etc.
La vraie solution pour éviter que les adolescents ne fassent leur éducation sexuelle sur des sites pornographiques est la prévention pour Valérie Marty, présidente des parents d'élèves de l'enseignement public.
Si les enfants vont sur ces sites aussi, c'est parce qu'ils ont des questions auxquelles les adultes ne répondent pas, tout simplement. Et je pense qu'il faut qu'on se pose cette question-là. Quelle éducation à la sexualité faisons-nous, que ce soit à l'école ou dans les familles? Le constat qu'on fait, c'est qu'il n'y en a pas, parce qu'on est assez mal à l'aise par rapport à ces questions. Que nous, parents, on ne sait pas comment les aborder facilement avec nos enfants. Les cours d'éducation sexuelle à l'école existent, mais elles existent en théorie et pas vraiment sur le papier. On reste toujours à des choses assez, je dirais, biologiques, qui est la procréation et puis après les maladies sexuellement transmissibles.
Il faudrait, selon elle, former des enseignants sur le sujet et surtout privilégier des ateliers non mixtes pour que les adolescents puissent, sans gêne, poser toutes les questions qui leur passent par la tête.
Un dossier signé Lise Verbeck.
8 heures passées de 9 minutes, le journal d'Amélie Perrier, les matins concerne France Culture, la suite aux États-Unis et ce double revers pour Donald Trump.
Double revers hier lors de l'audition du directeur du FBI devant les élus du Congrès. Il a confirmé enquêter sur de possibles liens entre la Russie et des proches de Donald Trump. La Russie soupçonnée d'avoir piraté des comptes de démocrates pour favoriser l'élection du milliardaire républicain l'an dernier. James Comey a également battu en brèche les accusations de Trump contre son prédécesseur Barack Obama d'avoir mis sur écoute la Trump Tower pendant la campagne. La contre-offensive pour le désormais locataire de la Maison Blanche s'avère délicate, Frédéric Carbonin.
À la Maison Blanche, l'opération déminage commence avant même la fin de l'audition devant le Congrès. Le directeur du FBI est encore en train de parler quand Donald Trump se réjouit sur Twitter de l'avoir entendu affirmer que le piratage russe n'a eu aucun impact sur l'élection. Un élu républicain demande alors à James Comey de confirmer. Embarras du directeur du FBI, suivi de cette mise au point. Nous n'avons livré aucune opinion et nous n'avons aucune information parce que nous n'avons pas travaillé sur ce sujet. Ce n'était pas notre intention de dire cela parce que nous n'avons pas d'information. En fait, dans une séance au cours de laquelle les enquêteurs ont surtout expliqué qu'ils ne pouvaient pas dire grand-chose, ce qui fâche Donald Trump, c'est que ce flou persistant ne fait pas disparaître le nuage russe. Son porte-parole est alors tenté d'en arriver aux conclusions plus vite que les enquêteurs, quand le directeur du FBI reste très prudent sur les liens entre des proches de Donald Trump et des Russes. Voici donc ce que proclame Sean Spicer.
I think it's fine to look into it.
Vous pouvez chercher ce que vous voulez, mais quand cela n'existe pas, cela n'a aucun intérêt. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui ne l'empêche pas de souligner que les personnes dont les noms circulent n'ont jamais été des proches de Donald Trump. L'un d'entre eux a quand même été son directeur de campagne pendant 6 mois.
Frédéric Carbonne à Washington pour France Culture. On apprend ce matin la mort d'une figure en Irlande du Nord. Martin McGuinness a succombé à l'âge de 66 ans. Il avait démissionné du gouvernement en début d'année en raison de ses problèmes de santé. Ancien chef de l'IRA, devenu vice-premier ministre d'Irlande du Nord, il a été le négociateur en chef du Sinn Féin pour l'accord du Vendredi Saint, l'accord de paix en 98. Le Brésil vacille à la crise politique, s'ajoute désormais une crise agroalimentaire. Ses exportations de viande de bœuf vers la Chine et le Chili sont suspendues et soumises à restrictions vers l'Union européenne. Un énorme scandale vient d'être découvert chez le premier exportateur mondial de bœuf et de volaille. Plus d'une vingtaine d'entrepôts frigorifiques sont soupçonnés d'avoir commercialisé des viandes avariées. Ils auraient même parfois utilisé des produits cancérigènes pour masquer l'aspect et l'odeur des morceaux périmés. Le secteur de la viande au Brésil, ce sont 7 millions d'emplois, 15% des exportations du pays. Et le scandale pourrait coûter 3,5 milliards de dollars selon le cabinet d'analyse Capital Economics. Le pape François a imploré le pardon de Dieu hier pour les péchés de l'Église au Rwanda. Déclaration choc à l'issue d'une rencontre entre le pape et le président du Rwanda, Paul Kagame, au Vatican. C'est la première fois que l'Église se désigne elle-même comme en partie responsable du génocide de 1994 et du massacre de 800 000 Tutsis. Un pas de géant a salué l'association de rescapés Ibuka, mais pas encore suffisant selon d'autres défenseurs des victimes du génocide rwandais. Le point avec Benoît Bouscarel.
En novembre dernier, les évêques rwandais avaient eux aussi imploré le pardon pour le rôle joué par de très nombreux membres de l'Église catholique pendant le génocide, mais sans mettre en cause l'institution elle-même. Dans sa déclaration, le pape, qui ne va pas jusqu'à reconnaître une responsabilité directe du Vatican, prend donc plus de risques. Cela dit, pour Christian Terrasse, fondateur des éditions Goliath, qui prépare un dossier sur les prêtres génocidaires encore en activité au Rwanda, cette demande de pardon reste insuffisante.
S'il n'y a pas de justice, le pardon est vain. Il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas la justice. Et comme dans les affaires de pédophilie, l'Église catholique a souvent imploré le pardon, mais sans faire passer la justice, ni la justice ecclésiale, ni la justice humaine. Et avec le génocide rwandais, on est exactement dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on implore le pardon, mais on ne fait pas passer la justice.
Difficile d'établir des chiffres exacts, mais de nombreux prêtres impliqués, et souvent directement génocidaires, ont été déplacés après 1994, protégés, couverts par l'Église, qui ne doit pas s'en tenir à un pardon facile. C'est aussi l'avis d'Alain Gauthier, président du collectif des partis civils pour le Rwanda.
ça devrait être aussi un message envoyé à l'église du Rwanda et, je serais tenté de dire encore plus précisément, à l'église de France, qui jusqu'à maintenant, je dirais malheureusement, est restée quand même sourde à tous nos appels concernant la présence de prêtres en particulier, qui seraient visés par des plaintes ou qui auraient participé au génocide. L'église de France est restée jusqu'à maintenant relativement sourde à tous nos appels.
En France, plusieurs prêtres rwandais sont toujours soupçonnés par les associations de victimes d'avoir fait partie des génocidaires actifs. Deux, au moins, sont toujours en activité dans leur paroisse.
Les géants d'Internet, de plus en plus riches et de plus en plus nombreux dans le classement du magazine américain Forbes. Bill Gates, le fondateur de Microsoft, conserve sa première place avec ses 86 milliards de dollars de fortune personnelle. Jeff Bezos d'Amazon s'empare de la troisième place. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, 32 ans, de la cinquième position. Et il y a encore plus jeune, à 26 ans, le cofondateur et président de la société de paiement Stripe, John Collison, a déjà sur son compte plus d'un milliard de dollars. Et Evan Spiegel de Snapchat, 26 ans lui aussi, pèse de son côté 4 milliards de dollars. On termine avec le temps de ce mardi, de la pluie et des nuages. Les minimales vont de 4 à 8 degrés en général. Et au plus chaud de la journée, il devrait faire 11 degrés à Brest et à Bordeaux, 12 degrés à Paris, 14 degrés à Strasbourg, 17 à Lyon et 19 degrés à Marseille.